Donc, le sujet de la prédication, on m'a demandé de vous encourager à la mission. Et c'est un sujet que j'étudie depuis plusieurs années, la mission. Et c'est un sujet qui est crucial. C'est même, je pense qu'il en va même de la survie de l'Église. Quand je dis survie, ce n'est pas que l'Église va disparaître s'il n'y a pas de mission, mais c'est juste qu'elle va être insignifiante. Les gens vont nous regarder comme ci, comme ça. Tant qu'on ne va pas prendre la mission et puis vraiment comme la mettre au cœur de nos activités. Le champ missionnaire, ce n'est plus ailleurs. J'espère que vous l'avez remarqué. Ce n'est plus en Afrique, en Asie, c'est ici au Québec. C'est ici en Amérique du Nord, c'est ici au Canada. Vous savez qu'aux États-Unis, sur environ 400 000 églises, il y a 1000 églises qui ferment leurs portes chaque année. Je dis bien 1000. Puis c'est des informations que j'ai pu corroborer de différentes sources. 1000 églises qui ferment leurs portes chaque année. C'est beaucoup ça. Au Canada, alors que les musulmans, les hindous et les sikhs ont doublé en 20 ans, les chrétiens ne font que diminuer. Au Canada, je lisais aussi un petit livre là où des pasteurs parlent de la mission. Et puis, ils disaient qu'ils se sont rendus compte que pour les Canadiens et le gouvernement canadien, le christianisme est nocif pour la société. Le Québec est la province la plus fermée à l'évangile de toute l'Amérique du Nord. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que la mission, aujourd'hui, ce n'est plus ailleurs ou uniquement ailleurs. Mais il faut qu'on pense ici, à nous aussi. Et le Seigneur amène des chrétiens de tous les pays qui viennent ici, déjà formés, qui connaissent déjà le Seigneur, prêts à servir. Pour faire quoi? Pour aider, afin que l'Évangile puisse avancer. Et on ne doit pas négliger cet aspect-là. Donc il y a un appel à toutes les églises, un appel à réfléchir, un appel à s'auto-examiner et à se poser des questions qui sont franches. Pourquoi le témoignage de l'Église n'intéresse presque plus personne au Québec? Première question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les catholiques ont abusé? Est-ce que c'est parce que les gens sont fermés? On pourrait dire ça. Mais vous savez quoi? Dans l'histoire de l'Église, on a eu le même cas, des cas similaires. Mais l'Évangile a avancé. Pourquoi? Le christianisme au Québec, les gens ne s'intéressent plus vraiment. Dieu a-t-il abandonné le Québec pour se tourner ailleurs? C'est une question bizarre. La réponse est non. Mais si je la pose, c'est parce que j'ai entendu plusieurs dire « Je pense que Dieu a abandonné le Québec. » Question franche. Les chrétiens sont-ils prêts à changer leurs priorités et à renoncer à eux-mêmes pour atteindre les gens? Est-ce que nous suivons le modèle de Jésus-Christ? Jean 17, 18 dit, c'est Jésus qui parle, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Il nous a envoyés. Lui aussi, d'abord il a été envoyé, il a vécu d'une certaine façon en mission sur terre, et puis il dit, « C'est de cette façon, moi aussi je vous envoie. » Est-ce que ce modèle nous dit quelque chose? Est-ce que nous l'étudions suffisamment? John Stott réfléchissait sur Jean 20, 21. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Je crois personnellement que notre échec à obéir aux implications de ce commandement est la plus grande faiblesse des chrétiens évangéliques dans le domaine de l'évangélisation aujourd'hui. On ne s'identifie pas. Nous croyons tellement et à juste titre à la proclamation que nous avons tendance à proclamer notre message à distance. » Nous apparaissons parfois comme des gens qui crient des conseils à des hommes qui se noient depuis la sécurité du bord de la mer. Nous ne plongeons pas pour les secourir. Nous avons peur de nous mouiller et même de plus grands périls que cela. Mais Jésus-Christ n'a pas diffusé le salut du ciel. Il nous a rendu visite en grande humilité. Nous ne pouvons pas renoncer à la prédication, car la proclamation est l'essence du salut. Pourtant, la véritable évangélisation est une évangélisation qui est calquée sur le ministère de Jésus. N'est pas plus qu'une annonce sans identification, qu'une identification sans annonce. L'évangélisation implique les deux ensemble. C'est une réflexion qui est très, très, très profonde. Et j'aimerais maintenant lire dans Actes 17, 16 à 34. Lisons ensemble. Je vous donne quelques secondes pour sortir vos Bibles, vos téléphones. Actes 17, 16 à 34. Verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Verset 19 « Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu nous apportes ?» En effet, tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout devant l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les hommes issus d'un seul homme habitent sur toute la terre, la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur demeure. Verset 27, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de sa race, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art ou et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Aussi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Dénis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le fait que tu te révèles à nous. Tu t'es révélé explicitement à nous à travers la parole écrite. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous parles ce matin, que tu nous encourages. Nous te demandons, Père éternel, que tu nous guides dans nos réflexions, que tu nous orientes. Parce que, Seigneur, ce que nous voulons premièrement, c'est obéir à ta parole. Ce que nous voulons premièrement, c'est te plaire. Alors, Seigneur, accompagne-nous alors que nous réfléchissons à la mission que tu nous as donnée en tant qu'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un grand défi pour les chrétiens aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est un défi qui doit être relevé. Même si les gens ici, par exemple, au Québec, ne sont pas intéressés par l'Évangile, ça représente tout simplement pour nous un défi. Et il faut qu'on le relève. Et dans ce passage, j'ai trouvé quatre points je dirais plutôt trois points importants, trois défis à relever. Premièrement, nous devons confronter nos préjugés. Deuxièmement, nous devons annoncer la parole de Dieu de façon pertinente. Nous devons, troisièmement, démontrer une confiance solide dans la souveraineté de Dieu. Et dans mon quatrième point, je voudrais qu'on puisse se rappeler que le sort de l'Église et de la mission est lié. Ces deux sorts sont liés. Regardons le premier point. Confronter nos préjugés. Donc, Paul, il est à Athènes et il attend Silas et Timothée. Nous lisons au verset 16 que, en fait, son esprit est irrité parce qu'il voit tellement d'idoles dans cette ville. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi il est irrité? Si vous allez en Inde, par exemple, et que vous voyez plein d'idoles, vous rentrez dans les magasins, vous voyez des statues de Bouddha, est-ce que vous allez être irrité? Les hindous ont des millions de dieux. Je dis bien des millions de dieux. Des millions d'idoles. Est-ce que vous allez être irrité si vous allez en Inde? Vous allez dire, c'est leur style de vie. Mais lui, il a été irrité. Je pense que cette irritation venait du Saint-Esprit. Et cette irritation l'a poussé à ne pas juste rester dans la synagogue, mais à aller sur la place publique pour annoncer l'Évangile. Malgré cette irritation-là, nous voyons qu'il a annoncé l'Évangile sans aucun préjugé. Verset 17, on voit qu'il s'entretient dans la synagogue, d'une part, mais également sur la place publique. Et à l'époque, la place publique, qu'on appelait Agora, c'était en fait une grande place au milieu de bâtiments municipaux. On y trouvait des boutiques, des stands, les vendeurs étaient là, vendaient toutes sortes de choses, les agriculteurs apportaient le fruit de leur récolte, les éleveurs venaient vendre du bétail là. On avait également des philosophes qui étaient là, qui rivalisaient pour attirer l'attention des gens, qui présentaient toutes sortes d'idéologies. Il y avait des enseignants itinérants, il y avait des spécialistes dans l'art de guérir, il y avait des marchands ambulants, il y avait des artistes. C'était vraiment comme une foire. Il y avait tout là. Ça n'a rien à voir avec un marché, les marchés que nous avons ici. Quand vous allez au marché, ben vous avez de la nourriture, mais vous n'allez pas voir tous ces gens-là qui sont là. Et ce que Paul fait, c'est qu'il décide, lui aussi, d'aller sur la place publique et puis d'annoncer l'Évangile. Paul se mêle à la foule et il vient là pour annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, devant cette perspective, si vous étiez à la place de Paul et que vous voyez cette grande place, est-ce que vous iriez annoncer l'Évangile? Est-ce que vous iriez annoncer l'Évangile dans un milieu, dans un chaos, un tel chaos? Vous allez vous poser certainement plusieurs questions. Est-ce que c'est efficace de partager l'Évangile dans un environnement qui n'est pas optimal? C'est ça qu'on va se dire. Est-ce que les gens vont entendre ce qu'on dit? Quelles sont les chances que des gens écoutent d'abord un message étrange et puis se disent, c'est intéressant, je vais donner ma vie au Seigneur? On va se poser tellement de questions. Mais vous savez quoi? Toutes ces questions-là révèlent un premier préjugé. La conversion exige de bonnes conditions. Si on n'est pas dans les bonnes conditions, c'est un peu compliqué qu'il y ait des conversions. Ça, c'est le premier préjugé. Et ce préjugé-là vient à partir des questions qu'on pose. Parce que les questions qu'on pose révèlent ces préjugés-là. Alors, la chose qui est importante, c'est de savoir que ça, c'est un préjugé. Dieu sauve comme il veut, quand il veut. Et à la perspective d'annoncer l'Évangile dans n'importe quelle position, si nous avons confiance en Dieu, nous allons le faire. Et quand nous lisons le reste de l'histoire, nous voyons qu'il y a eu des conversions. Premier préjugé que nous devons confronter. Il y a un deuxième préjugé, on voit ça dans les versets 18 à 21. Apparemment, quand vous regardez le verset 18, les gens ont regardé Paul, puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce discoureur? C'est comme si, alors que les philosophes sont là en train de crier leur message et leur idéologie, Paul aussi était là en train de crier et d'annoncer l'Évangile. à tel point qu'il attire l'attention des gens. Et puis les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire ce discoureur? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire là? On ne comprend rien dans ce qu'il est en train de dire. Des philosophes épicuriens et stoïciens ne comprennent pas le message qui parle de Christ et qui parle de la résurrection. Ils vont se moquer de lui, mais ils vont quand même le prendre au sérieux. Ils vont dire, on dirait qu'il annonce des divinités étrangères. Ça serait intéressant qu'il aille présenter son Dieu ou sa divinité ou ses divinités devant l'Aréopage. L'Aréopage, c'était comme un peu la cour suprême d'Athènes. Il y avait une trentaine d'hommes. Ils réglaient les problèmes de la ville. C'était un peu comme un tribunal. Et puis, c'est eux qui décidaient si Athènes pouvait inclure dans son panthéon de Dieu une autre divinité. Donc, on venait là, on annonçait, la personne présentait à l'Aréopage, et puis c'est l'Aréopage qui donnait la permission pour dire, « Ok, c'est bon, c'est un Dieu que nous pouvons intégrer parmi nos dieux. » Alors, imaginez-vous, Paul, que l'on amène devant l'Aréopage. Pensez-vous qu'il est heureux? Moi, je suis sûr qu'il est heureux. Si vous le connaissez, il est heureux, bien sûr. Il se dit, je vais pouvoir annoncer l'évangile devant les hautes instances de la ville. Quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez qu'à plusieurs reprises, il a été invité devant des gouverneurs à annoncer l'évangile. Il voulait ça. C'est lui-même qui a dit, mais je veux annoncer l'évangile à l'empereur, à Rome. C'est lui qui a demandé ça. Et le voilà maintenant devant les hautes instances de la ville. Et il doit annoncer l'évangile. L'étrangeté du message n'était pas un obstacle à proclamer l'évangile. Il est allé, il a annoncé l'évangile. Vous, si vous étiez dans une situation pareille, est-ce que vous seriez ravi quand vous dites « Tu vas aller annoncer maintenant l'évangile devant les responsables de la ville. Tu vas aller annoncer un message étrange, diamétralement opposé à toute croyance. » Est-ce que vous seriez à l'aise? Moi, non. Je vais lutter. Et donc, en luttant, ça révèle quoi? La peur, mais un deuxième préjugé. Dieu ne peut toucher ou sauver que quand le message est clair. Il ne peut pas sauver quand le message est étrange. Si on me dit d'aller présenter quelque chose que les gens savent déjà, j'ai aucun problème. Vous n'auriez aucun problème, que ce soit les hautes instances ou pas. Mais allez parler de l'évangile à des gens qui n'y croient pas. Puis c'est un message diamétralement opposé, des idéologies diamétralement opposées. C'est problématique. Nous avons tous des préjugés quand le temps arrive d'annoncer l'évangile. Et ça, il faut le reconnaître. Si nous ne reconnaissons pas ces préjugés, si nous n'arrivons pas à les articuler, nous allons toujours présenter des excuses. Oui, mais c'est parce que ceci, oui, mais c'est parce que cela... Et puis ce qui arrive, c'est que tout le monde fait ça. Et puis l'évangile est juste proclamé par une poignée de personnes, mais pas par tous les chrétiens. Or, là où nous sommes, nous avons besoin tous ensemble d'annoncer l'évangile. Pas juste les évangélistes, pas juste les missionnaires, pas juste ceux qui sont dans le comité des missions, pas juste ceux qui sont dans les ministères d'évangélisation. Tout le monde. Nous avons besoin de reconnaître nos préjugés. Il y a plein d'autres préjugés. Quand on dérange les gens pour annoncer l'évangile, ça ne donne rien. Le témoignage de vie est beaucoup plus efficace que la parole de vérité. Il ne faut jamais parler de péché au début. Ça va faire fuir les gens. Il faut laisser les gens venir à nous et non pas aller les déranger. Et il y en a plein d'autres. Mais ces préjugés la révèlent deux choses. La peur et l'incrédulité. On ne croit pas que Dieu est capable de faire quelque chose là où il y a un gros obstacle devant nous. On ne croit pas. On ne croit pas. Et nous devons donc non seulement reconnaître nos préjugés, puis nous repentir. Prions et disons à Dieu, Seigneur, j'ai des préjugés. Je ne suis même pas conscient. Quels sont ces préjugés-là? Je veux me repentir de ces préjugés. Je veux que tu m'aides à pouvoir aller vers les gens, à pouvoir atteindre les gens. Débarrasse-moi de ces préjugés et donne-moi une plus grande confiance en toi. Et donc, les défis aujourd'hui sont grands. Notre société se sécularise de plus en plus. Les chrétiens le christianisme est attaqué de toutes parts, eh bien nous avons vraiment besoin, dans un premier temps, de penser à nos préjugés. Deuxième point, nous devons annoncer l'évangile de façon pertinente. Donc, Paul est devant l'aréopage et il commence à annoncer l'évangile. Quand vous lisez le texte, vous n'allez pas avoir l'impression qu'il annonce l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a adapté la forme de l'évangile. Il a gardé le contenu, mais il a adapté la forme aux Athéniens, à des Grecs. Il n'était pas en face de Juifs. Avec les Juifs, il tentait de démontrer que Jésus est le Messie. Il est ce Messie qui devait souffrir et qui devait ressusciter. Donc il parlait clair en utilisant l'Ancien Testament. Mais avec ces gens-là, on voit qu'il annonce l'évangile d'une façon surprenante. Regardons la première chose qu'il montre. Versets 22 à 23. Donc Paul, il fait presque un éloge. Il dit, j'ai parcouru votre ville et je vous trouve extrêmement religieux. Wow! Il a découvert un autel qui a été érigé pour un Dieu inconnu. Et puis ce que Paul dit, c'est ce Dieu-là que je viens vous présenter. Hey! Je ne sais pas pour vous, mais la première fois que j'ai lu ça, j'étais dérangé. J'ai trouvé que cette comparaison était audacieuse. Ce n'est pas vrai. C'est des idoles. Ce n'est pas le vrai Dieu. Pourquoi Paul fait ce genre comme d'amalgame? Premièrement, il veut attirer l'attention. Puis ce n'est pas le premier, c'est pas la première comparaison. On va voir, il y a une deuxième. Mais là, ce qu'il veut faire premièrement, c'est qu'il veut attirer la curiosité sur un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il va utiliser un fait historique et leur croyance pour annoncer l'évangile. Et quel était ce fait historique? 600 ans avant l'époque de Paul, à Athènes, Athènes avait été frappée par la peste. Il y avait plein de malades et plein de personnes mourantes. Et il y a donc un poète qui s'appelle Épiménide qui a conçu un plan pour essayer de calmer les dieux. Parce que pour lui, les dieux étaient en colère. Il est allé à l'aréopage et il a lâché un troupeau de moutons. Il les a laissés librement errer dans la ville. Et puis, quand les moutons fatigués finissaient par se coucher devant un temple, alors on les sacrifiait au dieu de ce temple-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des moutons qui sont allés se coucher là où il n'y en avait pas de temple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils érigeaient un autel à un dieu qui est inconnu. Et puis Paul dit, mais c'est ce dieu-là que je viens vous annoncer. À ce stade-ci, Paul n'est pas trop confrontatif. Il s'abaisse à leur niveau de compréhension. Et il veut attirer leur attention. Le dieu que je vous annonce est un dieu que vous ne connaissez pas. Voilà ce qu'il dit. Voilà comment on peut résumer tout ce qu'il est en train de dire ici. Première chose. Deuxième élément de l'évangile, c'est un Dieu qui s'intéresse à l'homme. Versets 24 à 26. Paul parle de la nature et de la quête. De la nature de Dieu et puis de la quête des hommes. Et là, il a une façon particulière de le faire. Il va utiliser une confrontation implicite. Mais c'est une confrontation douce. Regardez ce qu'il dit. Verset 24, ce qui ressort, c'est que Dieu a fait l'univers, il est à l'origine de tout. C'est comme s'il dit, le Dieu que je vous annonce est le Dieu créateur. Mais vous savez quoi? Ce qu'il n'a pas dit est tout aussi important que ce qu'il a dit. Quand il dit, Dieu a fait l'univers et il est à l'origine de tout, c'est par opposition à qui? À l'aréopage qui décide qui est Dieu. L'aréopage, c'est eux qui décidaient qui est un Dieu valide pour la ville. Mais Paul dit, ce Dieu-là, ce n'est pas l'aréopage qui décide. C'est lui qui vous a fait. C'est lui-même qui a fait l'aréopage. Voyez-vous, tout ce qu'il n'a pas dit est tout aussi important que ce qu'il a dit. Verset 24, Il dit que Dieu est un Dieu omnipotent et indépendant. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Par opposition à quoi? À tous les temples que vous, vous avez faits et que vous mettez votre Dieu là. Alors Paul dit, lui là, ce Dieu là, ce n'est pas dans ce genre de temple là qu'il habite. Voyez-vous la confrontation douce, tranquille? Et la vérité, elle est là, elle est donnée quand même. Verset 25, c'est un Dieu qui est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'être servi comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Par opposition à quoi? Tous les rituels que vous faites pour venir donner la nourriture à votre Dieu, tous les sacrifices que vous faites pour les... Ce Dieu-là, il n'a pas besoin de ça. Verset 25, il pourvoit et il soutient sa création. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Versus quoi? Les sacrifices que vous, vous êtes en train de faire, c'est lui qui vous donne. Ce n'est pas vous qui lui donnez. Verset 26, c'est un Dieu qui est souverain. Dieu a décidé où tout homme va habiter. Il a même fixé la durée de la vie de tout homme par opposition à des dieux dépendants des hommes pour leur existence. Si l'aréopage décide que ce Dieu-là n'est pas un Dieu normal, n'est pas un Dieu valide, ben, ce Dieu n'existe pas. Alors nous voyons ici que Paul parle de Dieu, présente Dieu, confronte d'une façon donnée. Mais son point essentiel, c'est que Dieu s'intéresse à l'homme. Deuxième chose. Troisièmement, Dieu veut que l'homme s'intéresse à lui. Verset 27. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent, même s'ils ont des difficultés pour le chercher. Ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu veut qu'on le recherche. Et puis il dit, ben, il faut que tu le cherches. Peut-être que tu vas le trouver. Et si tu ne le trouves pas, sache qu'il n'est pas loin. Continue de chercher. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que nous ne pouvons pas trouver Dieu si ce n'est pas lui qui nous trouve. Dieu veut qu'on épuise toutes nos ressources pour le trouver. Quand tu vas arriver à la conclusion que tu ne l'as pas trouvé, que tu es vraiment malheureux, que tu vas te tourner vers lui et que tu vas dire, Dieu, aide-moi. Là, tu vas le trouver. Mais regardez comment il le dit ici, au verset 27. D'une certaine façon, il veut qu'on s'efforce à le trouver. Peut-être, on va le trouver. Si tu ne le trouves pas, il n'est pas loin. Donc quoi? Continue à le chercher. Dieu veut qu'on s'intéresse à lui. Dieu a fait l'homme à son image. Le verset 28 nous dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Paul ici utilise deux citations qu'il va coller ensemble. La première vient d'Épiménide, qui a dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais quand Épiménide disait ça, là, il faisait référence à Zeus, la divinité Zeus. Et puis il y a un autre qui s'appelle Ardus, c'est lui qui a dit, de lui nous sommes la race. Puis quand ce Ardus-là, quand il a dit ça, il faisait référence à Zeus, à une divinité. Et vous voyez comment Paul réutilise les mêmes citations, puis il dit, non, ce n'est pas Zeus, c'est l'Éternel des armées. Vous êtes de la même race que lui. Vous partagez la nature divine. C'est en lui que vous avez la vie, que vous avez le mouvement et que vous avez l'être. Qu'est-ce qu'on constate ici? Paul descend à leur niveau et il leur parle. Il sous-entend que, en fait, intuitivement, les Athéniens savent qu'ils ont une connexion avec une divinité. Puis cette façon de présenter les choses est tout simplement là pour dire la chose suivante. Vous vous êtes trompé. C'est vrai que vous avez une connexion avec une divinité. Mais vous pensez que c'est Zeus. Ce n'est pas Zeus. C'est le Créateur. C'est votre Créateur. Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Verset 30 à 31. Et il va le faire par Jésus-Christ, et la preuve de ce choix, c'est la résurrection d'entre les morts. Donc ce qu'il veut dire tout simplement ici, c'est que malgré votre spiritualité, malgré toutes vos croyances, vous avez besoin de vous repentir. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il a annoncé l'évangile. Si vous relisez tranquillement, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est juste, du péché, du besoin de repentance, du mérite, le fait qu'on mérite d'aller en enfer, de son Fils par lequel nous sommes sauvés, l'importance de se repentir et qu'on peut être sauvé si on croit en lui. Mais vous voyez comment il a annoncé la parole de façon pertinente. Il n'est pas venu avec des phrases théologiques, avec des phrases propositionnelles pour leur parler. Il a utilisé leur contexte. Il a utilisé ce qu'ils savaient déjà. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué, même si c'était approximatif, il a expliqué. C'est pas ce que nous faisons avec nos enfants. Nous faisons ça avec nos enfants. Vous avez un enfant, et puis vous voulez lui parler de la grandeur de Dieu. Vous dites, vous savez, tu sais, Dieu est grand. Et puis là, il te regarde, puis il dit, est-ce qu'il est grand comme toi, papa? Tu as le choix de dire, non, il est encore plus grand. Mais lui, il essaie de se représenter Dieu. Alors, si tu dis encore plus grand, ben, il est perdu. Alors, tu vas dire, oui, il est grand comme moi. Puis un jour, tu te balades en ville avec lui, puis il voit un gratte-ciel. Et puis tu dis, waouh, ce gratte-ciel-là est grand. Puis il dit, Dieu est grand comme ce gratte-ciel. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, il est grand comme ce gratte-ciel. Mais est-ce que c'est la vérité pure? Mais non. Mais à son niveau, c'est ça qu'il a besoin. Plus il va grandir, plus il va comprendre. Mais pour l'instant, il a besoin de se représenter que Dieu est grand comme quelque chose. Plus tard, il va comprendre. Et c'est ce que Paul a fait. Et les leçons pour nous, c'est la même chose. Quand nous voulons annoncer l'évangile aux gens autour de nous, apprenons à connaître leur contexte. Apprenons à connaître ce qu'ils vivent. Apprenons à connaître leurs croyances. Étudions leurs croyances. Les missionnaires là qui vont sur le terrain, là, ils passent des années à étudier la langue, à étudier la culture. Parce qu'ils savent que le message ne va pas passer de cette sans cette façon de faire les choses. Et aujourd'hui, vous avez quoi? À Montréal, toutes les cultures sont là. Toutes les cultures sont là. C'est incroyable. Avez-vous déjà essayé de parler du Seigneur à un Pakistanais? Tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Tu ne sais même pas. Et donc, si on ne tient pas compte des contextes, c'est comme si on parle en l'air. Si on ne tient pas compte des contextes, c'est comme si on se met au-dessus des gens. Et puis on leur dit, écoute, toi là, voici comment est Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Non. Il est venu sur terre. Il a appris notre langue, la langue des hommes. Il a parlé cette langue. Cette langue-là, elle est limitée. Hein? Le vocabulaire est limité. Il est venu. Il a mangé notre nourriture. Il s'est habillé comme les hommes de son époque-là. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que s'il ne faisait pas ça, ils n'allaient pas comprendre le message de l'Évangile. Et c'est la même chose pour nous. Donc c'est vraiment un encouragement. Jésus n'a pas annoncé la parole de la même façon à la Samaritaine ou bien même à Nicodème. Savez-vous comment il a annoncé l'Évangile au jeune homme riche? Le jeune homme riche s'approche de lui puis lui dit... Maître, comment on fait pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que le maître lui a dit? Mais avant ça, qu'est-ce que la loi dit? C'est ça? C'est bizarre, c'est choquant. Dieu pointe vers la loi pour être sauvé. Pourquoi? Il connaissait cet homme-là. Tu veux être sauvé par la loi? Oui, par la loi, oui, c'est possible. C'est juste qu'il faut que tu sois parfait. Puis tu seras sauvé. C'est l'implication de ces messages. Et comme personne n'est parfait, on serait mieux d'être sauvé par la grâce, de se tourner vers la grâce. Voyez-vous comment il annonce l'évangile à une personne qui a un contexte donné. La différence, c'est que lui, il regardait le cœur, puis il savait exactement ce qui se passait là. Nous, on a besoin d'étudier mais lui savait instinctivement. Nous devons démontrer une confiance solide, donc le troisième point, le troisième défi à relever, démontrer une confiance solide dans la souveraineté de Dieu. On voit ça dans les versets 32 à 34. Donc, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Donc, on voit qu'ils se moquent d'eux, ils se moquent de Paul. Il dit, « Bon, on va t'entendre une autre fois. » Et puis, qu'est-ce que Paul fait? Il n'insiste pas. Il dit pas, « Non, mais je n'ai pas encore fini. » Pourquoi? Parce que lui, il a confiance en Dieu. Que ça soit fini ou pas fini, si Dieu ouvre ton intelligence, tu vas comprendre. Tu peux être là, tu parles à quelqu'un, il t'écoute. Ton message est complètement inintelligible. Et puis à un moment donné, au moment que tu es fatigué et découragé, et puis que tu dis, bon, mais là, je pense que c'est le temps de partir, tu regardes ta montre, il te pose une question qui te montre que Dieu vient de lui ouvrir l'esprit. Tu parles, il comprend maintenant. Paul avait confiance dans la souveraineté de Dieu. Donc, il y a eu des conversions. Dénis l'Aréopagite. Vous savez qui est Dénis l'Aréopagite? C'est qui? Mais c'est quelqu'un qui était dans l'Aréopage. C'était un des juges. Voici un des juges. Alors que tous les juges ont dit, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On t'entendra une autre fois. Il y en a un là, dedans là, qui a dit, il faut que j'aille le voir après lui là. Puis lui, il a donné sa vie au Seigneur. Nous avons besoin de faire confiance dans la souveraineté de Dieu. Vous savez, la souveraineté de Dieu pour plusieurs d'entre nous chrétiens, ça veut dire, je ne me casse pas trop la tête, parce que de toute façon, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais pour Paul, c'est pas ça que ça veut dire. Pour Paul, ça veut dire, je me casse la tête. Parce que quoi qu'il en soit, quel que soit l'obstacle qui est là, Dieu est capable de le contourner s'il veut le faire. Voici la différence. Faire confiance à la souveraineté de Dieu. Dans mon dernier point, je voudrais tout simplement élargir notre réflexion sur la mission et l'Église. L'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile? Quand on lit dans Éphésiens 1, 9 à 10, avant de terminer, ça dit, nous faisons connaître, Dieu nous faisant connaître le mystère secret de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de réunir toute la création en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit juste les humains en Jésus-Christ, toute la création. Et réunir ici, ça fait référence à la réconciliation. Le péché est venu faire en sorte que les humains, les animaux, les anges, les végétaux, les minéraux et tout ce que vous voulez ont perdu la paix avec Dieu. Et c'est en Jésus-Christ seulement que cette réconciliation est possible. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu poursuit une mission de réconciliation. Quel est le rôle de l'Église dans la mission? Eh bien, l'Église est le moyen par lequel Dieu annonce le salut aux humains. L'Église est le moyen par lequel Dieu met en lumière son plan de réconciliation. L'Église est le moyen par lequel Dieu veut enseigner les êtres célestes sur la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quand on parle de mission, il faut qu'on sache une chose. Ce n'est pas l'Église qui est en mission. C'est Dieu qui est en mission. Et nous, on l'accompagne. Et nous, on participe. Donc ce que ça veut dire essentiellement, c'est que lui nous a devancés sur le terrain. Quand toi, tu arrives là, dis-toi toujours, Dieu était là avant moi. Et non pas, c'est moi qui m'en vais, c'est l'Église, on s'en va. Et puis on dit, Dieu, bénis nos pas, hein, bénis nos... Non, non, non. Il était là avant nous. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et nous devons vraiment garder ça en tête. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le succès dans l'évangélisation ou la mission, ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Mais quand nous avons pu annoncer l'évangile, quand nous avons fait les efforts pour que les gens entendent l'évangile, quand nous avons étudié les contextes et annoncé la parole de Dieu de façon contextualisée, quand nous sommes encouragés par l'Esprit Saint à travers les conversions, c'est là que se trouve le succès. Il y en a beaucoup qui se découragent, qui disent « Je pense que je ne suis pas évangéliste. » Parce que quand je lui parle, il ne se convertit pas. Ça fait plusieurs années que je parle, il ne se convertit pas. Alors je pense que c'est pas, il y a quelque chose, peut-être c'est pour d'autres personnes, mais ce n'est pas pour moi. Non, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous avons 100% de succès quand nous avons annoncé l'évangile de la bonne façon. Les résultats, la conversion, ça, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Très important. Et donc, c'est encourageant de savoir que Dieu est en mission. L'Église est une communauté de services qui existe pour le monde et non pas pour elle-même. L'Église est l'interprétation et l'application de l'Évangile. Les gens dehors, là, ils nous regardent. Tu dis que Dieu est bon, tu dis que Dieu est grand, tu dis que tu es chrétien. Mais là, quand tu as des problèmes, tu es comme moi. Tu pleures comme moi, tu n'as pas d'espoir comme moi, tu es à terre comme moi, tu es découragé comme moi. Pourquoi moi, je vais laisser mon style de vie pour suivre le tien? Il nous regarde. Nous sommes l'interprétation de l'Évangile. Nous sommes l'application de l'Évangile. Je termine ici simplement en récapitulant. Nous avons de grands défis. Le premier défi à relever, c'est confronter nos préjugés. Deuxièmement, la parole de Dieu doit être donnée de façon pertinente. Troisièmement, on doit faire confiance dans la souveraineté de Dieu quand nous allons pour annoncer l'Évangile. Et n'oublions pas que le sort de l'Église et de la mission sont inextricablement liés. Que Dieu bénisse sa parole.